Hey, les filles!
Hey, les filles est le nom d'une série de 3 émissions réalisées par un groupe de femmes de la maison de quartier Orgeval. Pendant plusieurs mois, elles sont venues à Radio Primitive afin de réaliser des interviews, écrire des chroniques et préparer et réaliser des reportages. Aujourd'hui, découvrez l'émission 1. Au programme, une longue interview enregistrée sur 2 semaines car le sujet était riche, puis un portrait de femme. Parlons donc de la parentalité. Les filles, on vous laisse le studio. Bonne écoute à vous.
Pour le projet de la maison de quartier Orgeval, nous avons invité Anne-Sophie Rollin, référente espace famille de la ville de Reims, pour nous parler de la parentalité.
Bonjour Anne-Sophie et Delphine. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, donc Delphine, je suis référente famille à la maison de quartier Orgeval.
Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, je suis référente famille à la maison de la famille de la ville de Reims.
Bonjour Anne-Sophie, mais qu'est-ce que la maison de famille ?
Alors la maison de la famille, c'est un service de la ville de Reims dans lequel on peut trouver le guichet de préinscription sur liste d'attente pour les structures d'accueil du jeune enfant. On peut trouver aussi 2 relais petite enfance, les anciens relais assistante maternelle, dont un est positionné sur Maison Blanche et un sur le quartier Orgeval. Et puis l'espace famille, dont je suis référente, qui organise des rencontres à destination des parents.
Anne-Sophie, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ?
Alors j'ai la chance de faire un métier qui me plaît énormément et où toutes les facettes sont, je trouve, très intéressantes. Donc bien sûr, ce qui me plaît le plus, hein, c'est la relation aux parents, c'est la rencontre au quotidien, les échanges, les partages. Et puis c'est aussi tout le travail avec le réseau de partenaires pour, en partant des demandes des parents, mettre en place des actions qui répondent à leurs besoins.
Bonjour Anne-Sophie, j'ai une question pour vous. Pouvez-vous nous présenter une journée type ?
Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, puisque le gros avantage aussi de ce travail, c'est de pouvoir tous les jours adapter son emploi du temps aux demandes des parents, aux besoins des partenaires de rencontres. Et du coup, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est toujours un petit mix entre rencontrer des partenaires pour de nouvelles actions et puis accompagner les parents sur des questionnements ou sur des actions en présentiel à la maison de la famille.
Comment sont organisés les partenariats entre les structures ?
Alors là, on peut peut-être répondre à 2 voix, du coup, avec Delphine.
C'est des mutualisations de compétences entre des professionnels.
Oui, pour mailler le territoire, les maisons de quartier ont la particularité d'intervenir sur un secteur géographique bien défini, alors que la maison de la famille, son secteur géographique, c'est toute la ville de Reims. Donc chacune de notre côté, on ne peut pas toutes répondre à toutes les demandes des parents. Et il y a vraiment cette nécessité de créer du lien entre les partenaires pour mutualiser les différentes compétences, les différents moyens en fonction des demandes des parents sur le territoire.
Et je rajoute aussi qu'il y a aussi mutualisation des compétences pour chaque maison de quartier. Donc une personne de la maison de quartier Orgeval peut trouver l'activité qu'elle veut dans une autre maison de quartier, par exemple Épinette, Trois-Fontaines, etc. Parce que dans un quartier, on ne peut pas répondre à toutes les demandes.
Comment, en tant que maman, vous réussissez à vous organiser dans votre travail ?
Donc moi, je suis maman de 4 garçons qui ont 6 ans et demi, 11 ans, 15 ans et 18 ans. Alors certainement qu'il y a des facilités qui viennent du fait qu'ils sont de plus en plus grands et de plus en plus autonomes. Après, ce qui me facilite grandement ma vie de maman et de professionnelle, c'est d'avoir un compagnon qui a bien pris conscience que les charges se répartissent de manière équitable, doivent se répartir de manière équitable pour que chacun puisse s'épanouir en tant que parent. C'est important et c'est très présent quand on a des enfants. Mais que pour s'épanouir, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect professionnel, il y a l'aspect individuel, d'avoir du temps pour soi, de faire des choses pour soi. Et ça, ça peut exister que si on se répartit les choses équitablement dans le couple.
Et est-ce que votre participation à l'émission fait partie de vos missions ?
Oui, ça fait partie de mes missions. Et puis, ça rentre...
En fait, tu... Anne-Sophie a répondu... Il y a eu un premier partenariat avec Radio Primitive où, sur ce projet, on a décidé d'interviewer des professionnels sur des thématiques qu'on a décidées avec les femmes. Et Anne-Sophie a répondu favorablement parce qu'on est partenaire aussi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi parce qu'on est déjà partenaire sur des actions en commun sur le quartier. Et voilà. Et puis que ça s'inscrit...
On aimerait bien savoir les inconvénients pour vous.
Alors, je vous disais que j'avais la chance de faire un travail que j'aime beaucoup, mais évidemment, il y a des inconvénients, comme dans tous les métiers. On va surtout dire que là, ce qu'il y a, ce serait plus le regret de ne pas avoir plus de temps. Même au-delà de la question des moyens, c'est plus de temps, peut-être du coup plus de moyens humains pour pouvoir vraiment accompagner les parents. J'ai envie de dire, certainement depuis le désir de grossesse, depuis le désir de devenir parent, parce que c'est important, c'est certainement là qu'on se pose beaucoup de questions en premier lieu, et puis de pouvoir accompagner et au long de la grossesse et pendant les premières années de vie des enfants. Donc c'est le seul inconvénient, ou en tout cas un regret pour moi, c'est de ne pas avoir plus de temps.
J'ai une autre question, si vous me permettez. Comment la situation sanitaire impacte votre travail et vos missions?
Alors, la crise sanitaire depuis le début en 2020, elle a demandé de repenser complètement l'intervention auprès des parents, l'accompagnement des parents, puisque, comme tout le monde au premier confinement, on a pu eu la possibilité de se rencontrer, d'organiser des rencontres en présentiel. Pour autant, je pense que Delphine me rejoindra, la demande des parents, elle a toujours été là. C'est pas parce qu'à un moment, il a fallu s'isoler, et certainement même au contraire, l'isolement et le fait de se retrouver enfermé en famille a encore augmenté le besoin de pouvoir échanger. Et puis, ça nous a confrontés aussi à du quotidien H24 avec nos enfants. Déjà une épreuve en soi aussi. Hein. Donc, où effectivement, là, on aurait peut-être eu besoin de soutien. Donc, sur la maison de la famille, on a mis en place un groupe WhatsApp où les parents peuvent se retrouver. Il y a aujourd'hui 85 familles inscrites sur le groupe. Et on est vraiment sur des échanges de soutien de pair à pair. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément moi en tant que professionnelle qui réponds aux parents, mais c'est surtout les parents qui se répondent entre eux, qui se soutiennent, qui partagent leurs expériences. Et ça, c'est un vrai plus. En tout cas, ça change la donne de la relation de soutien à la parentalité. Le soutien à la parentalité, ça peut être les professionnels, mais ça peut aussi et surtout être les autres parents. Et puis voilà, après, on a aussi fait des choses comme des rencontres en Zoom. Et puis aujourd'hui, on a la chance, au niveau du soutien à la parentalité, de pouvoir quand même organiser des rencontres en présentiel.
En fait, c'est vrai que cette situation sanitaire met beaucoup en difficulté au niveau de l'organisation, des activités, tout ça. Malgré tout, on essaye de répondre au mieux aux besoins. Et les activités au niveau de la famille ne se sont jamais arrêtées, même si les groupes devaient être en plus petit comité, ce qui permet aussi de créer un relationnel plus important entre les personnes.
En tout cas, je dirais que la crise sanitaire, elle a aussi démontré beaucoup de solidarité entre les parents. Beaucoup de soutien sur des moments qui étaient très compliqués. Moi, j'ai vu passer des messages de personnes qui se sont rencontrées, qui ont recréé du lien qu'elles n'auraient peut-être pas créé s'il n'y avait pas eu ce contexte, finalement.
Dans votre travail de tous les jours, comment accompagnez-vous les femmes isolées, les mamans célibataires ?
Alors, c'est une bonne question, puisque tout à l'heure, on parlait de la répartition des tâches. Bah, quand on est parent solo, on ne répartit plus grand-chose. Hein. On est obligé de tout porter tout seul. On peut avoir... Alors déjà, c'est une sacrée mission. C'est un sacré challenge. Le rôle de la maison de la famille, le rôle de la référente de l'espace famille dans ce cadre-là, ça va être de faciliter les démarches. C'est-à-dire qu'il ne sera pas question de pouvoir réaliser les démarches pour les familles. Néanmoins, de pouvoir mettre en lien avec les bons interlocuteurs, de pouvoir soutenir, de pouvoir faire le lien avec les partenaires qui seraient les meilleures ressources possibles pour ces parents-là, pour les parents qui se retrouvent seuls à devoir tout gérer. C'est plutôt là le rôle de l'espace famille. Donc on peut se rencontrer en individuel, on peut échanger par mail, on peut échanger par téléphone. Ça peut être d'accompagner sur un lieu de partenaire pour la première rencontre, si c'est important pour les parents, si ça facilite pour eux la démarche d'aller vers.
Les parents isolés, soit c'est eux qui viennent vers vous, mais vous, vous n'avez pas habilité à avoir la liste des personnes qui sont isolées, des femmes, non ?
Non. Alors, toutes les démarches de la maison de la famille se font sur de la libre adhésion, c'est-à-dire qu'on essaye de communiquer au maximum. Je pense qu'on ne communiquera jamais assez, mais on essaye de communiquer au maximum auprès des parents. Mais après, c'est les parents qui se saisissent ou pas de l'opportunité de venir nous voir.
Il y a toujours des personnes qui ne viennent pas au-devant.
Oui.
Des secteurs comme la maison de la parentalité ou d'autres, comme la maison, la maison de quartier qui est très importante, qui a un rôle très important au sein d'un quartier. Et comment vous faites pour aller vers ces personnes qui ne viennent pas ?
Alors là, moi, j'ai envie de vous dire que c'est aussi l'histoire du réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Déjà, je trouverais très inquiétant de pouvoir accéder à une liste de parents isolés ou toute autre information concernant les parents qui me permettrait de les identifier et de les interpeller en direct. Néanmoins, après, c'est le travail de réseau. C'est-à-dire que plus on a un bon partenariat avec les CSD, avec la PMI, avec les maisons de quartier, etc., plus il y a de maillage. Plus les parents, quand ils rencontrent un des partenaires qui est peut-être pas compétent pour accompagner ou qui arrive au bout de ce qu'il peut faire pour la famille, va pouvoir faire le lien avec un autre partenaire qui, lui, pourrait peut-être soutenir de plus justement la famille. Ça, c'est l'importance du maillage partenarial. On parlait tout à l'heure de l'exemple d'une maman ou d'un papa qui ne parlerait pas français. Si dans mon coin, je ne connais pas l'existence d'associations comme Femmes Relais 51... ou du SIAM, je passe complètement à côté de l'orientation de cette famille. Moi, je ne vais pas être en capacité de l'aider, mais je dois pouvoir, par le biais du réseau, trouver le partenaire qui pourrait la soutenir au mieux. Donc, du coup, on ne démarche pas, mais ben, voilà, si, peut-être qu'il y a des collègues, puis c'est même certains, des partenaires qui repèrent des familles qui auraient besoin de rencontrer d'autres parents et qui vont les orienter vers la maison de la famille. Par contre, après, c'est à chacun d'adhérer ou pas, enfin, adhérer au sens de venir participer ou pas. Il n'y a jamais d'obligation. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais les rencontres de l'espace famille, de la maison de la famille, d'ailleurs, c'est un service public, donc toutes les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. Il n'y a pas de conditions.
J'avais une dernière question. Vous avez mentionné le groupe WhatsApp. Je voulais savoir, est-ce qu'il est accessible à tous les parents ou alors il faut au préalable faire partie de la maison de famille ?
Il y a une adhésion.
Donc non, il n'y a pas d'adhésion. Vraiment, on est sur l'idée d'un service public. Donc il n'y a pas d'adhésion. Et l'intégration sur le groupe WhatsApp se fait par le biais d'un petit mail à espacefamille@reims.fr et auquel, en réponse, je vous transmets le lien pour intégrer le groupe. Donc il n'y a pas de conditions de quartier, de lieu. Il n'y a même pas d'obligation d'avoir participé à des rencontres de l'espace famille, puisque sur le groupe, il y a des parents que je n'ai jamais rencontrés. Donc c'est vraiment... libre.
Okay.
Vous êtes à l'écoute de l'émission 1 de Elle et Filles sur les ondes de Radio Primitive. Une émission conçue et réalisée par un groupe de femmes de la maison de quartier Orgeval à Reims. Aujourd'hui, avec leurs invités, elles abordent le sujet de la parentalité.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour Delphine. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui est très intéressant par rapport aux parents, par rapport aux enfants. C'est un sujet parentalité.
Bonjour Anne-Sophie, bonjour Delphine. Alors, j'avais une petite question pour commencer. C'est comment vous définiriez la parentalité positive, sachant que c'est devenu parfois un petit peu un fourre-tout où on entend un enfant roi, etc. etc. Donc, je voudrais connaître votre point de vue.
Alors, la parentalité positive, de plus en plus, on entend aussi un autre mot apparaître, c'est la parentalité créative. Et je crois que je l'aime bien, ce mot de parentalité créative, parce que dans parentalité positive, Comme tu disais, on a tendance à retenir qu'il faudrait que tout soit un petit peu parfait, que tout aille toujours un peu bien dans le meilleur des mondes, que les enfants soient tout le temps heureux, avec des émotions sous contrôle presque. Alors que dans la réalité, on a toutes fait l'expérience que c'est pas du tout ça le quotidien de parents. C'est souvent très chouette et puis c'est souvent un peu le chaos aussi. Et donc, dans la parentalité positive ou créative, il y a surtout cette idée d'être à l'écoute de ce qui se passe pour son enfant, mais aussi d'être à l'écoute de ce qui se passe pour moi, parent. Comment le comportement de mon enfant fait écho chez moi ? Qu'est-ce que ça soulève comme émotion aussi pour moi ? Et puis, de pouvoir aussi comprendre, avoir les éléments d'information, de compréhension de pourquoi ça fonctionne comme ça pour un enfant. Et de réajuster nos attentes envers nos enfants à la réalité du développement de leur cerveau, du développement de leurs compétences. Quand on demande à un petit de 2 ans de ne pas faire de colère, donc on ne voit pas, mais je fais des guillemets, donc de ne pas faire de colère dans le magasin, c'est optimiste, c'est sûrement positif, mais dans la réalité, en fait, l'objectif, ce n'est pas tellement qu'il ne fasse pas de colère, ça, ce n'est pas contrôlable, une émotion, c'est plutôt de comment, en tant que parent, on va pouvoir l'accompagner et puis lui permettre, au fur et à mesure de son développement, du développement de sa maturité, de son cerveau, pouvoir lui accueillir ses émotions et trouver les comportements qui seront adaptés à la vie avec les autres et puis à son équilibre à lui.
Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit être à l'écoute. La réalité, c'est le contraire, c'est pas pareil. Un enfant heureux, c'est un peu... là, il y a un mot que j'entends toujours entre les parents. Ils disent un chantage, ça vaut pour améliorer la relation entre le parent et l'enfant. Est-ce que, à votre avis, est-ce que le chantage... c'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que c'est une meilleure solution ? Parce que parfois, on arrive quand même à faire un chantage avec l'enfant.
Alors, je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien.
Parfois.
Je vais te dire, écoute, si tu termines pas cette interview, ce midi, tu n'auras pas de repas. Est-ce que ça t'encourage ou est-ce que ça te met un gros coup de pression ? Peut-être ça fait perdre les moyens et peut-être ça ne te fait pas te sentir super, super bien. En fait, quand on utilise le chantage avec les enfants, on produit exactement la même chose. Et c'est souvent à l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Moi, si on me met la pression, si on me pose des conditions systématiquement pour tout, il y a des chances que je fasse les choses soit franchement à reculons, soit que je ne le vive pas très, très bien, de me faire d'être soumis au chantage. Après, on ne peut pas effacer non plus tout ce qu'on a reçu, nous, en tant que parents. On a reçu une éducation avec des parents qui pensaient à ce moment-là faire le meilleur choix pour nous, nous donner la meilleure éducation possible. Aujourd'hui, avec l'avancée des neurosciences, avec l'avancée des connaissances qu'on a sur le développement de l'enfant, on sait que ces outils-là, ils ne sont pas hyper favorables et qu'il en existe plein d'autres qui marchent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus intéressants pour la relation parent-enfant. Donc, par exemple, plutôt que de poser du chantage du « si tu es pas sage, il se passe ça », donc parce là, on cumule les négatifs, parce que là, on considère que d'entrée de jeu, il ne va pas être sage. Oui. Et puis en plus, s'il ne l'est pas, il y a une conséquence qui est plus ou moins réaliste, parce qu'en plus, des fois, sous le coup de la colère, en tant que parent, on met des conditions et on émet des chantages qui sont qu'on ne pourra jamais mettre en œuvre, et heureusement. Alors que peut-être, des fois, de formuler différemment, de manière positive, et de renforcer les comportements qu'on attend chez l'enfant, ça va avoir une toute autre incidence. Si tu t'es pas lavé les mains, il n'y a pas de dessert. Le dessert, c'est quand on s'est lavé les mains. Ça ne dit pas du tout la même chose. Là, l'enfant, on lui rappelle quelle est la consigne, que pour pouvoir avoir le dessert ou pour pouvoir passer à table, il faut s'être lavé les mains. Donc, on s'appuie sur ses compétences. On lui rappelle la consigne parce que peut-être il est petit et qu'il ne peut pas tout retenir. Et on rappelle juste. Et ça, souvent, ça marche bien mieux qu'un « si tu ne t'es pas lavé les mains, tu n'auras pas
tant
de dessert. Hein, tu passes pas là. Voilà. »
Tant que, il faut toujours mettre « tant que ».
Quand expliquer le comportement qu'on attend, là, c'est de s'être lavé les mains. Et une fois que le comportement attendu, il est réalisé, il est effectif, pouf, on passe à table. Et en fait, les enfants, ça, c'est OK pour eux. C'est beaucoup plus facile de retenir ce qu'on attend de moi que de retenir une liste d'interdits. ou une liste de consignes négatives.
Parce que toujours l'interdiction, c'est ce qu'on fait, ce qu'on aime faire. Lorsqu'on interdit un enfant de faire ça, lui, dans sa tête, c'est ça.
Alors,
il cherche à faire la chose qu'on a
interdit. Tu as tout à fait raison. C'est cette fameuse histoire de comment le cerveau entend et perçoit, traite la négation. Et en fait, il traite la négation après avoir entendu et traité le verbe d'action. Donc, quand on dit à l'enfant « ne cours pas sur le bord de la piscine », le premier mot que l'enfant entend, c'est « cours ». Et ça, tu le vois, il y a une petite accélération sur le bord de la piscine avant que le « ne pas » ait fait le tour et qu'il se rappelle qu'en fait, ce qu'on lui a demandé, c'est de ne pas courir. Si sur le bord de la piscine, je lui dis « marche doucement », la consigne, tout de suite, elle est claire et tout de suite, il peut la mettre en appui. C'est OK pour lui. Donc, oui. Et donc, la liste des interdictions, bah, souvent dans une vie d'enfant, touche pas la prise, mets pas tes doigts à ton nez, monte pas sur la table. Il peut y avoir au cours d'une journée une liste d'interdits énormes. Et c'est pas possible pour un enfant de retenir autant d'interdits. C'est possible pour personne d'ailleurs.
Vous avez parlé des valeurs qu'on peut transmettre à nos enfants, parce que vous avez dit aussi les parents, nos parents nous a transmis des valeurs et on est attaché à ces valeurs. Est-ce qu'on peut transmettre comme ça clairement et facilement, alors que nous sommes deux générations qui sont différentes, deux mentalités différentes, deux vies différentes. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible?
Oui, parce qu'en fin de compte, c'est que les modalités qu'on va changer, les valeurs, déjà c'est important d'en avoir, en tout cas je pense qu'on en a tous et c'est ce qui nous guide au quotidien. Donc avoir conscience de ces valeurs, de ce qui est important pour soi, c'est ce qui va permettre de poser un cadre cohérent aux enfants. Donc le cadre après, soit il est posé, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, en tout cas avec des modèles qui ont eu lieu auparavant, peut-être avec du chantage, peut-être avec de la punition, peut-être. Là, soit ils sont posés avec une autre valeur qui est celle de la bienveillance, qui est celle de la confiance. Et du coup, je ne vais pas utiliser tout à fait les mêmes outils, mais mon objectif, si c'est la valeur du respect d'autrui, ça sera... Je peux tout à fait la transmettre, mais je ne vais pas utiliser les mêmes outils. Je ne vais pas le faire de la même façon. Et peut-être que, par exemple, sur cette valeur respect des autres, politesse, etc., le fait de moi-même utiliser des outils qui sont valorisants pour l'enfant, qui sont positifs pour l'enfant, qui prennent soin de lui, qui cultivent la confiance en lui, je vais peut-être avoir de bien meilleurs... c'est que des graines semées, ce qu'on fait avec nos enfants, mais peut-être que je vais voir pousser de très belles plantes plus que ce que je n'aurais imaginé.
Question aussi, est-ce qu'il existe des clés de comment établir un lien de respect, de confiance avec nos enfants dès le plus jeune âge pour que ça perdure tout au long de notre vie dans nos échanges avec eux?
Alors le respect, je crois que c'est de toute façon, de quelles que soient les relations interpersonnelles qu'on a, quelles que soient les relations humaines qu'on a, le respect c'est parce qu'on en témoigne à l'autre qu'on en a. Donc ça voilà. Et par contre la confiance, oui, si dès le plus jeune âge, je montre à mon enfant qu'il peut me faire confiance et qu'il peut avoir confiance en moi, ben ça, c'est les graines semées qui resteront toute une vie.
J'ai une autre question. C'est un exemple, vous êtes notre invité et c'est un exemple, on peut appuyer là-dessus. Vous êtes maman de 4 enfants et vous avez des ados. Moi, je suis aussi maman de 5 enfants et j'ai 3 ados. Et je voulais aussi avoir des astuces en ce qui concerne la relation, comment établir une relation de confiance, comment trouver du temps, parce que vous travaillez, vous avez un temps plein, vos enfants aussi, ils ont l'école, ils ont le lycée, ils ont aussi un temps plein. Et lorsqu'ils rentrent 18h, 10h, ils vont dormir. Ça veut dire, est-ce que vous trouvez quand même, entre le ménage, entre beaucoup de responsabilités, un moment pour... l'échange, pour la communication, pour voir, pour parler quand même de la vie des enfants et est-ce que vous trouvez quand même ça par rapport à l'organisation des temps? C'est un peu.
Eh ben pas toujours, parce que comme il n'y a pas de parents parfaits, il y a des jours où On peut avoir plein de bonnes intentions, mais on peut avoir une journée bien pourrie. Et puis, du coup, arriver le soir et ne plus avoir de disponibilité, c'est plus possible. Il y a trop de choses dans la tête, il y a trop de choses à faire dans la maison. Et on passe un peu à côté de la relation avec les enfants. Mais rien que de se poser cette question de quel est le temps que j'accorde à mes enfants, ça me laisse penser qu'on va toujours en trouver. On va finir par trouver comment les modalités de comment on peut être en relation avec cet ado. Et tout comme on ne va pas être le même parent pour chacun des enfants quand ils sont en bas âge, quand ils sont ados, on n'est pas tout à fait le même parent pour chacun des enfants en fonction de leur tempérament, en fonction de est-ce qu'ils s'ouvrent beaucoup, est-ce qu'ils ne s'ouvrent pas. Des fois, on peut avoir semé plein de graines de confiance quand ils étaient petits et puis avoir quand même un ado qui ne parle pas beaucoup, qui ne partage pas beaucoup, qui est très secret, qui a besoin d'avoir son espace à lui. Et c'est un avis très personnel, puisque je ne suis pas spécialiste des adolescents, mais je trouve que tout l'équilibre difficile d'être parent d'ado, c'est de trouver la juste distance entre leur montrer qu'on est toujours là et physiquement ne pas être toujours trop là. Parce que des fois, ils nous trouvent un peu envahissants quand même. Donc, c'est trouver ce juste équilibre entre les petites attentions. Je pense que si on les regarde bien, on les connaît mieux que ce qu'on croit, et on sait bien les petites choses qui leur font plaisir, les petits moments qu'ils aiment bien partager. Souvent, c'est des moments très très simples. C'est 5 minutes que vous prenez le soir de venir leur dire bonne nuit, de leur demander si tout va bien, de prendre le temps peut-être de s'asseoir 2 minutes au bord du lit pour dire tiens, ta journée, etc. Rien que ce temps-là, ça, c'est du temps de qualité, et c'est ce qui va permettre de maintenir. Et puis après, c'est d'avoir son attention de... on est des fois très auto-centré. En tout cas, on a des fois l'impression que l'ado, il fait tout contre nous et que c'est contre nous que c'est très difficile. Mais en même temps, on est la personne... les parents sont les personnes de confiance potentiellement dans la vie de l'ado, à qui il peut montrer à quel point sa vie, c'est difficile, à quel point c'est compliqué, mais il sait pas toujours le dire avec des mots. Mais son corps le dit, son attitude le dit. Et comment nous, on arrive à garder un petit peu de distance pour se dire, c'est pas contre moi. Il y a quelque chose là qui ne doit pas être OK pour lui. Et puis d'avoir ce petit réflexe de revenir pour dire, tout à l'heure, j'ai vu que ça avait l'air un peu tendu. Ça a été ta journée. Alors, peut-être il vous parle, peut-être il ne vous parle pas. Le fait de maintenir la relation, le fait de laisser une porte ouverte, ça ne veut pas dire que l'ado va pousser la porte tout de suite, là, maintenant. Mais c'est lui rappeler qu'il y en a une de porte et que vous êtes là, quoi qu'il arrive.
Hey, les filles! Sur Radio Primitive, émission 1 sur 3.
Alors, est-ce que la parentalité induit forcément un travail sur soi pour se connaître avant tout et donner le meilleur de soi dans ce beau rôle de parent qui nous est finalement offert ?
Je ne sais pas si c'est un travail sur soi ou si c'est de l'apprentissage tout court. En fait, ça peut être les deux, parce que certainement qu'il y a une forme de travail sur soi quand on devient parent, mais surtout, en fait, c'est un tel apprentissage. Et puis, à nouveau, t'apprends à être parent d'un premier enfant, tu te dis, super, chouette, j'ai développé des compétences parentales, ça, je sais gérer, ça, quand il pleure, machin, et t'as un deuxième, et bim, tout s'effondre. Parce que c'est pas du tout le même modèle, et tu es pas tout à fait le même parent, et du coup, il faut à nouveau réapprendre à être le parent de cet enfant-là. Donc eux, ils apprennent à devenir des enfants. Ils grandissent, ils évoluent, ils se développent, etc. Puis nous, on avance aussi, quoi. Alors je ne sais pas si on doit appeler ça un travail sur soi, mais en tout cas, c'est un apprentissage, ça c'est sûr. Et il n'y a personne qui naît en sachant être un parent. Des fois, tu as un petit bagage parce que tu as eu une grande fratrie ou tu fais partie d'une famille nombreuse et il y a beaucoup de cousins, cousines, donc tu as beaucoup vu de petits et du coup, tu as plus de modèles, plus de repères. Mais quand c'est le tien, ce que ça va réveiller, ce que ça va faire remonter en émotion, etc., c'est unique. C'est unique. Et du coup, c'est un apprentissage unique.
Ouais. Peut-être qu'au lieu de travail sur soi, je voulais plutôt dire aussi un retour sur soi. C'est-à-dire, comme vous disiez, si je ne sais pas, il y a une situation que je vais observer avec mon enfant, et par rapport à ma réaction, si je fais un retour sur moi, je vais m'apercevoir en fait que c'est lié à quelque chose que j'ai vécu étant petite, etc. Donc je me dis, s'il n'y a pas cette prise de conscience où on doit revenir sur soi...
C'est avoir une forme de lucidité. En fait, c'est plus oui, une forme de lucidité, avoir conscience qu'il y a certaines de nos réactions en tant que parents qui découlent clairement de l'éducation qu'on a reçue. Ouais. La plupart, c'est le modèle principal qu'on a eu d'éducation. Forcément, quand on devient parent, c'est avec celui-là qu'on commence. C'est notre premier bagage. Et puis, bah, des fois, ce premier bagage, il est super chouette et il va être très utile. Des fois, il est un petit peu plus lourd et il va falloir trouver comment on s'en dégage sans que ça remette tout en question complètement qui on est ou quoi, mais juste trouver ce qui est juste pour nous avec cet enfant-là. Et qui n'est pas forcément, du coup, le modèle qu'on a reçu, mais qui n'est pas non plus forcément la façon dont on a fait avec le premier, ni la façon dont la voisine, elle fait avec le sien. Ou le voisin fait avec le sien.
Ce que je sens parfois avec mes enfants, parfois, c'est pas qu'on aime le grand, par exemple, on aime le petit, mais parfois, eux, ils réagissent comme ça. Ils disent, ouais, c'est parce que tu aimes bien le grand, c'est parce que tu aimes bien... comment gérer ça entre...
Ah oui, alors l'enjeu de la fratrie. Tu peux répondre, bah oui, c'est vrai, c'est lui mon chouchou. Bon, là, ça tue le truc dans l'œuf, mais souvent, ça sème la discorde. Ouais. Mais alors déjà, il y a un truc, moi, je trouve, dont on ne prend pas assez conscience, c'est que, bien sûr, qu'on a des affinités particulières avec chacun de nos enfants. Tu as 5 enfants, tu n'as pas fait 5 fois exactement le même. Chacun de tes enfants est différent, il a une personnalité différente, ils ont des centres d'intérêt différents. Et il y a des chances qu'avec chacun, tu te sentes des affinités particulières sur certains points plus que d'autres. Parce que il y en a un qui a une passion pour telle chose et c'est quelque chose qui te plaît aussi, bah, ça va être un sujet de discussion facile entre vous. Peut-être qu'il y en a un ou une qui a un sens de l'humour très proche du tien et tu te dis, bah, tiens, avec elle, on rigole bien parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça, ce n'est pas une question d'amour. C'est ça, on a le même amour, on aime ses enfants, point. Il n'y a pas de, y a même pas de notion de quantité, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Quoi qu'il arrive, je t'aime, quoi que tu fasses, je t'aime, quoi qu'il se passe, je t'aime. Par contre, on peut avoir des affinités particulières avec les uns et les autres en fonction de leur tempérament et de notre personnalité. Et souvent, on voit que dans le couple de parents, eh ben, c'est pareil. Il y en a un qui a plus de facilité, entre guillemets, à être en relation avec un des enfants. Et c'est pas parce qu'il le préfère, c'est parce que, bah, tiens, peut-être qu'en termes de tempérament, de personnalité, ça matche mieux. Mmh. Et du coup, je crois que ça se dit dans une fratrie. Oui. Ça s'explique, ça. Ça, c'est de pouvoir dire, je m'occupe là beaucoup du petit, parce que lui, là, tout de suite, à son âge, il a beaucoup besoin de ça. Mmh. Et toi aussi, tu as besoin de moi, mais pas tout à fait de la même façon. Et peut-être que tu vois, le nourrisson, je ne peux pas différer le moment où je lui donne à manger. Par contre, le plus grand, je peux peut-être différer légèrement le moment où on fait le jeu. Donc, et ça... Plus on est clair avec eux sur l'histoire des besoins et de leur faire comprendre qu'on entend que chacun a des besoins et qu'en tant que parent, on essaye de répondre au mieux à ce besoin-là, ben ça résout pas mal de choses.
Les filles, une émission du groupe de femmes de la maison de quartier Orgeval et de Radio Primitive.
Est-ce que quelque part, la différence qu'on fait sans le faire exprès peut affaiblir la confiance entre nous deux, les parents et les enfants? Et comment on peut l'établir dans un deuxième temps, établir, c'est pas le respect parce que le respect il est toujours là,
mais restaurer deuxièmement,
la confiance.
Alors, moi, je trouve
que parfois, il y a la différence. On fait la différence sans le faire exprès.
Oui, mais je crois que tu dis tout dans ta question. À partir du moment où tu prends conscience que pour l'enfant, ça pose un problème, là, il faut réagir. C'est-à-dire qu'on peut soit ne pas avoir l'impression de faire des différences, mais les enfants peuvent, eux, percevoir les choses un peu différemment. Et là, du coup, c'est intéressant d'aller écouter. Ben, pourquoi pour toi, qu'est-ce qui te donne l'impression que... Alors déjà, on nie jamais le ressenti. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient te dire « Moi, j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Moi, je sens que j'ai moins d'importance pour vous qu'un tel ou etc. » c'est vrai, c'est pas vrai, c'est, ça ne se juge pas. En tout cas, c'est ce que lui, il ressent. Et ça se discute pas, ça sert à rien de dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je fais. Non, non, lui en tout cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Et du coup, ce qui est intéressant là, c'est de se dire bah, qu'est-ce qui fait que tu ressens ça ? Bah, parce que tu vois, t'as passé beaucoup de temps. Ah, et de quoi toi tu aurais besoin pour sentir à nouveau à quel point je t'aime ? Ah ben, moi, j'aimerais bien qu'on aille faire des courses ensemble, qu'on aille au parc, qu'on fasse un jeu, etc. Et souvent, ils sont très justes pour te donner des pistes de ce qui leur ferait du bien, de ce qui leur permettrait de se sentir mieux dans la relation. Puis quand ils sont plus petits et qu'ils ne peuvent pas verbaliser aussi bien, l'enfant dont on perçoit que le comportement est plus difficile depuis l'arrivée d'un petit ou depuis qu'on est obligé de passer plus de temps avec un des enfants pour X ou Y raison, eh ben, une fois qu'on l'a perçu, on propose des choses aussi pour passer du temps ensemble. Les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de temps de qualité. Le temps de qualité, c'est du temps où je suis vraiment disponible, où je ne suis pas en train de faire ma liste de courses ou en train de gérer des trucs dans ma tête. Où, et du coup, même si ce n'est pas un très long temps dans la journée, de pouvoir trouver ce temps-là, parce que bah, voilà, plus il y a d'enfants, tu ne peux pas multiplier des rituels de 2 heures par enfant au moment du coucher. Ce n'est pas possible. Par contre, c'est sûr que tu peux accorder 5 vraies minutes à chacun des enfants au moment du coucher. Et puis peut-être qu'il y aura des fois où ce sera une demi-heure avec un, parce qu'en ce moment c'est compliqué, parce qu'il a peur du noir, parce qu'il y a quelque chose, et un peu moins de temps avec l'autre. Mais comme il y a quand même un temps de qualité, et que tu te mets à l'écoute de son besoin, ou que tu proposes un temps de qualité à un autre moment de la journée, parce que le coup du au moment du coucher, ah mais moi aussi je veux une deuxième histoire, non mais en fait toi là t'allais t'endormir, c'est ton besoin, c'est pas que je passe du temps maintenant avec toi. Par contre, peut-être que demain, ça serait chouette qu'on puisse
faire ça. On peut sortir, on peut faire plein de choses, mais...
Alors, la dernière question, ce serait comment devenir un parent heureux, épanoui, et ne pas rester focalisé au final sur ses doutes, ses erreurs, se focaliser sur le positif.
On a ce regard complètement biaisé de toujours voir ce qui ne va pas. Et finalement, ce qui ne va pas, c'est souvent pas le plus de ce qu'on vit. Il y a plein de moments sympas, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est tellement étouffé par les moments difficiles qui semblent prendre toute la place, que du coup, on ne voit plus les moments où ça se passe bien, où on a une relation sympa avec ses enfants. C'est rigolo parce que l'histoire du bonheur, il y a une radio concurrente qui fait un petit podcast sur le sujet. Et à chaque fois, j'entends ça. Ben, le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs, hein. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas des autres. C'est quelque chose qu'on cultive pour soi, en soi, à l'intérieur de soi. Et ben, quand on est parent, c'est un peu la même. Le choix du regard qu'on souhaite porter sur ses enfants... des fois, ils demandent de se détacher des valises un petit peu d'avant, de regarder devant. De toute façon, quand t'as crié, t'as crié. Hein. Donc, tu peux plus revenir dessus, tu peux pas effacer le moment où t'as crié. La seule chose que tu peux faire, c'est le reprendre avec l'enfant, c'est s'excuser. Ça, si on parlait de faiblesse, etc., souvent, les parents pensent que s'excuser auprès de son enfant, c'est ça y est, t'as évoqué tout à l'heure l'enfant roi, ça y est, c'est les enfants qui ont le pouvoir, etc.
Il non, faut demander des excuses.
Complètement. Moi, quand je me frite avec un adulte, je sais aller m'excuser. Et puis surtout, ça me renforce, ça me fait du bien quand l'adulte avec qui je me suis engueulée et qui peut-être était en tort ou pas en tort, vient, fait ce pas vers moi pour dire, bon... Là, ça ne s'est pas très bien passé entre nous. Comment on pourrait faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois ? Du coup, s'excuser, faire le premier pas, pas oublier, c'est des enfants. Ils ne peuvent pas à un moment... ils seront des belles plantes dans 25 ans. Alors, d'ici là, c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous de faire en sorte qu'ils aient la lumière qu'il faut, l'arrosage qu'il faut, les nutriments qu'il faut. Aussi bien physiquement parlant, purement... biologiquement parlant, mais aussi affectivement parlant. Et tout ce qu'on pourra leur témoigner de respect, de confiance, de bienveillance, c'est du terreau plus. C'est de l'engrais pour l'avenir. Donc du coup, le regard qu'on choisit de porter, cette histoire, il y a toujours des moments difficiles. Ça ne veut pas dire non plus Tout à l'heure, je t'avais proposé créative à la place de positive, parce que dans le positif, il y a toujours cette notion que tout devrait toujours bien aller, alors que c'est pas vrai, il y a des fois où ça va pas. Et peut-être que pour être un parent heureux, un bout du chemin, c'est aussi d'accepter qu'il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments qui sont difficiles. Et plus de se poser la question, qui je trouve sur mon chemin quand c'est difficile pour me soutenir, pour m'accompagner? On n'est pas seul quand on est parent. Il y a des groupes qui existent, il y a des lieux qui existent, il y a d'autres parents hein, sur Terre qui vivent exactement les mêmes choses avec des enfants différents, mais qui rencontrent les mêmes difficultés et qui peuvent être des soutiens. Donc, c'est pas rester tout seul.
Durant les trois émissions à venir, dans « Et les filles », vous découvrirez chaque semaine, en fin d'émission, un portrait de femme. Aujourd'hui, c'est Chimène qui vous fait découvrir une femme extraordinaire.
Alors, je m'appelle Chimène, j'ai quatre enfants et ça fait 8 ans que je suis sur Orgeval. Donc, portrait de femme. Émilienne est son nom, née en 1967, innocente et intrépide, qui ignorait le poids que serait sa vie et du sort qui lui était réservé. Issue d'une fratrie de 9 enfants, dont elle est numéro 5, et survivante de multiples grossesses extra-utérines, méprisée, reniée par la mère, puis ballottée de famille en famille, et utilisée par d'autres comme servante, commerçant au marché et j'en passe. La petite Émilienne devait avoir de superbes pouvoirs pour abattre tout un tas de corvées en une journée, surtout mériter son pain pendant que les autres de son âge étaient sur le chemin de l'école. Elle n'y avait pas droit car ça intéresserait qui et surtout profiterait à qui de la savoir instruite. Au fil des années, de petit boulot en petit boulot, et vu qu'elle était douée en commerce, alors elle décida d'en faire son métier pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Elle l'a rejetée de tous et sans raison. Des années passèrent, elle rencontra un homme fonctionnaire lui, qui l'aidera et elle fonda sa propre famille, dont je serai la première. Émilienne, son histoire et son illettrisme traversaient bien des péripéties, mais elle ne baissait jamais les bras. Sa réussite se voit par sa petite famille, mari et enfant, ses biens immobiliers et toujours ses divers commerces. Comme elle le dit si bien, Dieu seul sait pourquoi la vie a été si difficile pour moi et ainsi. Sinon, autrement, avec sa volonté de faire, elle aurait pu bien plus. C'est ainsi que la petite Émilienne est devenue une femme de tête et décida que désormais, sa voix compte, surtout pour le combat d'illettrisme des femmes. Émilienne, ma femme de tête.
C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez découvrir le prochain numéro la semaine prochaine, toujours sur Radio Primitive. Vous pouvez réécouter cette émission et le reste de la série sur le site de Radio Primitive, rubrique émissions, puis atelier. Les trois émissions de Elle et Filles seront présentes.
Then get back to business.